Donc on va, pendant ces quelques dimanches, eh bien, nous arrêter de nouveau sur le combat spirituel. Vous vous souvenez, la dernière fois que j'en ai parlé, c'était la troisième partie sur ce thème du combat spirituel. J'ai regardé sur le site, ça me sert de référence. Donc c'est au mois de février dernier, donc ça remonte. Hein. Voilà. Donc si vous voulez revenir un petit peu sur les premières parties, les trois premières parties sur ce sujet, je vous invite à aller sur le site addgroyer.fr. D'accord ? Mais nous allons aller jusqu'au bout pendant cette période d'été sur ce sujet et nous allons le terminer bien sûr. J'aimerais revenir sur le texte de référence, hein, Éphésiens chapitre 6, Éphésiens chapitre 6 verset 10. Voilà le texte, je dirais le texte clé, le texte référence de la parole de Dieu, de la Bible. Éphésiens, l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 6, verset 10. Voilà, je vous invite à ouvrir votre Bible. Si des personnes nous visitent ce matin, n'ont pas l'habitude d'avoir la Bible, pour l'instant à leur disposition, les versets vont s'afficher hein, derrière moi. Éphésiens, chapitre 6, verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, c'est ce que nous allons voir, on continue à voir, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin, du diable. Prenez aussi le casque du salut et également l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par et avec l'aide du Saint-Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. La supplication, c'est aller jusqu'à verser des larmes. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les croyants. Les saints, hein, c'est pas les idoles, hein, c'est pas les statues. Priez pour tous ceux qui appartiennent à Jésus. Bien sûr, pour ceux qui n'appartiennent pas encore à Jésus. Et puis, versets 19 et 20, je vais jusqu'au bout. Hein. « Priez, dit Paul, pour moi, et j'en profite pour vous dire la même chose, priez pour moi, merci, parce que je prie pour vous, également, afin, donc je me l'approprie, hein, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement, le mystère de l'évangile, parce que le diable voudrait tout verrouiller, mais le diable est vaincu. Librement, le mystère de l'évangile, pour lequel, c'est pas mon cas, hein, c'était le cas de l'apôtre Paul par contre, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, puisqu'il était en prison à cause de sa foi à ce moment-là, et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Amen. Nous avons donc vu trois parties, dont une première arme que nous avons vue la dernière fois. Je vous invite donc, j'insiste, d'aller sur le site pour vous remettre en mémoire tout cela, le contexte, dont la première arme qui est la ceinture de la vérité. Le passage que nous venons de lire, bien sûr, c'est le passage clé concernant le combat spirituel et particulièrement la proposition de nous revêtir de toutes les armes de Dieu qui sont des armes spirituelles, parce que si le combat est spirituel, il faut des armes spirituelles, pas des armes charnelles, elles serviront à rien. Si nous n'avons pas ces armes-là, si du moins nous ne nous en revêtons pas, si, bien sûr, nous ne les utilisons pas, nous allons avoir beaucoup de mal. sur le plan spirituel, à tenir ferme. Et je vais y revenir dans quelques instants. Je ne peux pas tenir ferme avec des idées religieuses, avec la connaissance totale même de la parole de Dieu. Si je la connaissais sur le bout des doigts, du premier verset jusqu'au dernier verset, ça ne servira à rien. Il faut que je me revêt de toutes ces armes. Ce n'est pas facultatif, ce n'est pas une option, c'est incontournable. Et cette vérité, l'apôtre Paul la souligne déjà dans ses premiers siècles, à cette église d'Éphèse. Mais j'ouvre une parenthèse, puisque j'en avais parlé certains mardis soirs, par rapport à l'art et la manière de servir le Dieu, je n'ai pas fini sur ce sujet, j'évoquerai certains principes du service également, certains dimanches ici, dans l'église, avec tous et toutes, mais ceci étant dit, c'est que j'avais parlé d'Éphèse par rapport au fait, et j'y reviendrai aussi sur ces églises d'Asie, que le Seigneur va leur faire un reproche, il va avoir un grief contre eux, car il va dire « Mais ce que j'ai contre toi, dit-il à cette église d'Éphèse, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Il n'a pas dit « perdu ». Perdre, c'est involontaire. Mais abandonner, c'est volontaire, c'est responsable. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné. Cet amour que tu as reçu lors de ta nouvelle naissance, lors de ton engagement avec moi, lors de ta consécration de Jésus avec moi. Ce qui est dommage, c'est que le temps a érodé ton amour, a eu raison de ton amour. Alors, bien sûr, ça c'est dommageable. Mais pourquoi je dis ça? Pourquoi je le rappelle? Parce que l'apôtre Paul dit à cette église de se revêtir de toutes les armes de Dieu. Et quand Jésus écrit à l'église d'Éphèse, il s'est écoulé 40 ans. Pas 2 ans, pas 6 mois, 40 ans. Presque un jubilé. 40 ans. Et au bout de 40 ans, Jésus dit, mais ce que j'ai contre toi. Et s'il y a eu cet abandon de ce premier amour, ça veut dire qu'il y a eu, en même temps, un relâchement, même s'il y a certains points positifs. Mais pourquoi sont-ils vécus? Comment sont-ils vécus? Quel est l'état d'esprit? Puisqu'ils ont abandonné leur premier amour. Je peux servir sans avoir le premier amour. Et je peux servir sans être dans la réalité de ce que Dieu me demande. Ça veut dire que mon service va produire quoi? Du vent. Ce que Dieu nous demande, c'est d'être en accord avec toute sa parole. Avec tous les principes de sa parole. Et donc, il va évoquer cela puisque Paul dit « Mais soyez revêtus de toutes, ou revêtez-vous, de toutes les armes de Dieu. » Donc ça laisse sous-entendre que 40 ans plus tard, les armes spirituelles qu'ils avaient utilisées étaient de moins en moins utilisées. Ce qui prouve que leur premier amour a été abandonné volontairement. Pourquoi? Parce que, à mon avis, face aux épreuves, face aux combats, face aux luttes, même s'ils ont résisté d'une certaine manière, aux œuvres des Nicolaïtes, etc. Bref, malgré tout, il y avait là un manque, il y avait là quelque chose qui n'allait plus. Et le Seigneur le fait remarquer. Mes frères et sœurs, la question se pose ce matin, chacun individuellement, à chacun d'entre vous. Gloire à Dieu, est-ce que vous avez toutes les armes de Dieu? Vous répondez pour vous-même devant Dieu. Et si vous dites non, bien c'est possible ce matin de courir au magasin et de récupérer les armes. Par la foi, gloire à Dieu, comme un soldat, avant de partir en mission, il va pas y aller dans les poches avec une marguerite entre les dents. Il va aller chercher ses armes, il va aller chercher son matériel pour mener le combat. Mes frères et sœurs, sur le plan spirituel, c'est la même chose. Ce qui fait peur au diable, c'est pas le fait que je dise « je suis à Jésus ». Ce qui fait peur au diable, c'est que je suis à Jésus en obéissant à Jésus et en me revêtant de toutes les armes de Dieu. Donc on va, bien sûr, insister là-dessus. Parce que c'est dans cette position, à maintenir en Christ, que réside le bon combat de la foi. Quand la Bible dit qu'il y a un bon combat, ça veut dire qu'il y en a un mauvais. Et le problème, c'est que parfois, certains peuvent tomber dans ce travers du mauvais combat. Le Seigneur nous a donné tout ce qu'il faut pour mener le bon combat de la foi. Alléluia. Et la victoire, parce qu'elle nous est déjà acquise, c'est vrai. Et très souvent, mais je voudrais quand même remettre, comme je le fais à chaque fois, les choses dans l'équilibre. Souvent, j'entends dans les prières, et moi-même je le dis, j'entends, Seigneur, merci pour la victoire que tu nous as acquise à la croix. Amen. Donc je vais dire amen, bien sûr. C'est une vérité. Mais j'ai l'impression, pas tous, mais que certains, parfois, n'arrivent à dire cela en se disant, après tout, ça y est, puisque la victoire découle de la croix, ben je suis vainqueur. Oui, amen. Mais mes frères et sœurs, la parole de Dieu me dit aussi que j'ai des efforts à faire. Vous comprenez ce que je veux dire par là, remettant tout dans l'équilibre? Ça veut dire que si certains disent, Seigneur, tu m'as tout acquis à la croix, je suis vainqueur par l'œuvre de la croix, ça veut dire maintenant c'est bon, je suis tranquille, je suis protégé, je suis à l'abri, le diable ne me touchera pas, le diable ne me tentera pas, le diable ne fera rien pour me dégager de l'œuvre de Dieu. Non, c'est complètement faux. Tout m'a été acquis à la croix. Mais malgré tout, je dois me tenir à la brèche. Et pour me tenir à la brèche contre l'adversaire de mon âme qui veut ma destruction, il faut que je sois armé. Donc on a parlé la dernière fois de la ceinture, de la vérité. Et là, nous allons parler, dans quelques courtes minutes, je fais une intro bien sûr, de la cuirasse de la justice. La victoire, donc oui, se trouve en demeurant en Christ et dans ce qu'il a accompli à croix, c'est vrai, si nous l'avons reçu par la foi, mais je dirais que les bonnes armes sont celles qui sont adaptées au combat, sont celles qui sont adaptées au coup à parer spirituellement. Est-ce que vous êtes conscient que le diable veut vous donner des coups? Oui ou non? Il faut éviter de vivre dans un monde spirituel ou dans... Allez, je vais dire ça autrement, d'éviter de vivre dans une idée d'un monde spirituel qui serait, vous savez, un monde ouaté. La vie chrétienne, c'est pas seulement dire Alléluia. Quelqu'un qui est en Christ, je viens de le dire, quelqu'un qui a reçu Christ comme Sauveur et Seigneur, certes il est dans cette réalité de victoire, mais faut-il aussi s'armer? Sinon, si c'était pas le cas, ça serait pas écrit, on est d'accord. Paul ne l'aurait pas dit aux Éphésiens. Le Seigneur n'aurait pas permis que cette épître de Paul, cette lettre, nous soit communiquée. Ce sont celles qui sont adaptées au combat et au coup à parer. L'apôtre Paul dira aux Corinthiens, à un moment donné, il va insister là-dessus, il va leur dire, écoutez, les armes avec lesquelles nous combattons, elles ne sont pas charnelles. Hein. C'est marqué. Elles ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. Par quoi ? Par la vertu, par le pouvoir, par l'action de Dieu. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Pour quoi faire? Ben, pour renverser des forteresses. Et le diable veut établir des forteresses à Groyer. Il va employer tous les moyens, extérieurs, intérieurs, tout ce que vous voulez. Mais faut-il être spirituel, être avisé, être dans la réalité, j'en ai parlé dans le cadre biblique, dans la réalité des dons spirituels selon le cadre biblique, pour arriver à faire face, pour arriver à y voir clair, pour arriver à saisir les choses que le diable voudrait infiltrer pour bloquer, pour scléroser, pour arrêter l'Église. Le but du diable, c'est d'arrêter l'Église sur la terre. C'est de détruire l'Église de Jésus-Christ. Oui, Jésus a dit, je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Mais il fera tout l'adversaire. Il ne sera jamais dans le désarmement sauf au dernier temps, sauf dans les derniers moments, la Bible nous dit prophétiquement, mais jusqu'au bout, il reviendra à la charge. Même après 1000 ans, alors qu'il aura été enchaîné, il sera délivré, libéré, là il va revenir à la charge. Toujours. Mes frères et sœurs, vous n'êtes pas à l'abri si vous ne demeurez pas en Christ. Vous n'êtes pas à l'abri si vous ne vous revêtez pas de toutes les armes de Dieu. Vous et moi, bien sûr. Pour renverser des forteresses, mais il est écrit aussi, pour amener toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. Il y a une évidence, c'est ces luttes spirituelles, physiques, morales, matérielles, familiales, ecclésiales, l'Église. Il y a des luttes. Lutte au dedans, lutte au dehors. Et ça sera ainsi jusqu'au bout. Jésus a lutté, mes frères et sœurs, nous l'oublions jamais. Fils de Dieu, fils de l'homme, Dieu au milieu de la terre, il a lutté. Tout au long de son ministère, qui a duré 3 ans et demi, mais même avant de commencer son ministère, Jésus était déjà dans la lutte et le combat. Il a lutté. Le diable a tout fait pour le détourner de la croix, afin que je ne sois pas là et que vous ne soyez pas là. Et que l'humanité soit entraînée en enfer dans sa totalité. Il a essayé à le détourner de la croix. Quand ? Quand ? Pardon ? Après son jeûne de 40 jours et 40 nuits, dans le désert où il a été conduit par le Saint-Esprit, et le diable est venu le tenter. Et qu'avait Jésus pour résister ? On y reviendra par rapport aux armes spirituelles. Qu'a-t-il fait Jésus pour lui résister ? Pourtant c'est le Fils de Dieu, pourtant c'est Dieu sur la terre, n'est-ce pas ? Mais le diable, lui, ne se laisse pas arrêter. Il tente Jésus, il dit « mais je vais réussir ». C'est pour vous dire l'orgueil qui est en lui. « Je vais réussir ». Qu'a-t-il fait Jésus pour lui résister ? Qu'a-t-il fait pour le faire fuir ? Il est revenu à chaque fois sur la parole de Dieu, le contexte biblique, le contexte de la doctrine de Dieu. Le bon combat spirituel se vit par rapport à cela. Comprenez que c'est important, ce sujet. C'est important de bien être équipé pendant cette période d'été, où il arrive parfois que certains se relâchent. C'est très important d'être bien équipé pendant notre vie quotidienne, sociale, scolaire, etc., pour tenir bon jusqu'au bout. Il y a l'évidence de la lutte spirituelle. Alors bien sûr que je ne voudrais pas annuler, ignorer une autre réalité du combat, bien que j'y ai fait plus ou moins allusion, mais j'y reviens, une autre réalité du combat qui est celle de notre chair. Ah, notre chair. On l'aime bien, hein. On lui donne à manger. Elle nous coûte cher quand même, hein. On la soigne. On la lave. Ben, j'espère. On lui donne du repos. J'en parlais vendredi soir. Bref, on s'en occupe. Enfin, quand je vois que vous en occupez. N'est-ce pas ? Vous êtes magnifique. Magnifique. Merveilleux. Vous vous en occupez. Ce matin, quand vous êtes levé, vous vous êtes occupé de vous-même. Mesdames. Messieurs. Jeune homme. Faut que je sois beau. Et moi, j'ai du mal, hein. On s'en occupe. Mes frères et sœurs, de la même manière que nous nous occupons de notre chair, il faut surtout s'occuper, et avant tout, de notre cœur. Parce que c'est de lui que viennent les sources de la vie, et c'est là que le diable veut taper. La chair, vous savez, elle va réagir par rapport à ce que nous lui donnons. Si je lui donne l'occasion de prendre le dessus, elle va prendre le dessus. C'est la raison pour laquelle Paul dira que ce n'est plus lui qui vit. Mais c'est Christ qui vit en lui. Et c'est ça qu'il faut retenir dans la réalité de ce combat spirituel, c'est que il faut que Christ prenne toute la place. Quand Christ lutte avec le diable et le fait reculer, il est rempli de la parole, il est rempli de la gloire d'en haut, il est en communion avec le Père. Il y a une parfaite unité. Et la chair, Jésus était dans un corps de chair comme le vôtre, comme le mien, hein, on est d'accord ? Fils de l'homme. Il a ressenti la faim, il a ressenti la soif, il a ressenti la fatigue, il a ressenti le découragement, il a éprouvé des angoisses, il a éprouvé de la tristesse, c'est marqué dans la Bible tout cela. Hein. Il a. Mais à la différence de beaucoup d'hommes sur cette terre, c'est que Jésus n'a jamais failli en rien. Il n'a jamais péché. Il ne s'est jamais détourné du Père. Il est toujours resté armé spirituellement. Il est toujours resté rempli du Saint-Esprit. Il est toujours resté attaché à la parole et seulement à la parole de Dieu. Et de cette manière-là, le Seigneur, par ce moyen-là, il a fait taire la chair. Mes frères et sœurs, nous sommes capables de pouvoir le faire. Il y a une opposition entre notre chair et l'Esprit de Dieu. Et inversement, une opposition entre l'Esprit de Dieu et la chair. Paul le dit aux Galates, chapitre 5. Et ce passage de l'Épître aux Éphésiens que nous avons lu va évoquer essentiellement les luttes contre les ruses ou contre les manœuvres du diable. Cela n'empêche pas de constater que l'homme est également, c'est vrai, on le voit tous les jours, pardonnez du peu, mais l'homme est beaucoup plus méchant que gentil. Accusateur, capable du pire, et même parfois d'inspiration diabolique par nature. Pardonnez du peu, quelqu'un qui se fait sauter au milieu d'une foule, c'est pas Dieu qui agit, c'est le diable. Quelqu'un qui poignarde un homme ou une femme, qui tue, c'est pas Dieu, c'est le diable. Faut rien mélanger. Dieu est amour. Le diable est méchant. Il ne veut pas votre bien. Il veut votre mal. Il veut que vous soyez malheureux. Il veut que vous soyez écrasé, accablé. Il veut que vous vous leviez le matin déprimé. Il veut que vous vous leviez le matin complètement découragé. Lui, il veut ça. Le diable fait cela. Mais Dieu, par le Saint-Esprit et par sa parole, comme ce matin, il vous encourage en vous disant, Dieu, qu'est-ce qu'il vous dit? Il veut votre bonheur. Il veut votre épanouissement. Il veut que vous soyez heureux. Il veut que quand vous veniez dans la maison de Dieu, vous y veniez avec le cœur chantant. M'est arrivé de regarder quelques matchs de la Coupe du Monde. Pour ceux qui aiment le football. Il y en a qui aiment autre chose. La pêche. Pourquoi pas? C'est un sport. Pourquoi je dis ça? Parce qu'un commentateur, lors d'un match, il m'a fait sourire et il a dit ceci. Alors que l'équipe, une des deux équipes jouait très bien, il a dit, c'est agréable à voir le jeu parce que la balle est heureuse. Je l'ai entendu. Ah, j'ai celle-ci, je ne la connaissais pas d'expression. La balle est heureuse, le ballon est heureux. Parce qu'il circulait, bim, 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 bim. Oh, elle est heureuse. Et dans mon cœur, je me dis, et toi? Est-ce que tu es heureux? Bon, jusqu'à preuve du contraire, c'est une expression. Mais quelque part, mes frères et sœurs, la question se pose. S'il disait, la balle est heureuse, c'est parce qu'elle circulait, elle n'était pas bloquée. Quelque part, comprenez mon raisonnement, je m'appuie là-dessus pour dire, est-ce que je suis heureux dans le sens où rien ne me bloque? Et ça circule dans le bon sens, je vais dans le bon sens, j'avance dans le bon sens, je regarde avec le sens qui est celui de Dieu. La Bible dit que quand on tourne les regards vers lui, on est comment? On est rayonnant de joie, on est heureux, ça circule. Alléluia, il n'y a pas de blocage entre Dieu et moi. Ce qui peut bloquer ma relation avec Dieu, c'est quoi? Le péché, la désobéissance, tout ce qui vient de la chair et qui va reprendre le dessus. Mais je veux que ce soit l'Esprit de Dieu par rapport à cette réalité spirituelle. Le verbe lutter désigne ici la lutte entre deux combattants dans le texte. Entre deux combattants, dans lequel chacun essaye de renverser l'autre, et c'est de bonne guerre. La victoire étant acquise par le maintien de l'adversaire. D'ailleurs, la Bible en parle, je vais citer le passage, quoique tu peux déjà l'afficher, Josué 10, 24. Eh bien, la victoire, c'était comme ça dans l'Ancienne Alliance, étant acquise par le maintien de l'adversaire au sol, et en lui mettant les pieds sur la nuque, sur le cou. Il ne peut plus bouger. Puis si j'appuie un peu, ça fait mal, hein. Et c'est écrit, lorsqu'ils eurent amené ses rois devant Josué, Josué appela tous les hommes d'Israël et dit aux chefs des gens de guerre qui avaient marché avec lui, approchez-vous, mettez vos pieds sur les coups de ces rois. Ils s'approchèrent et ils mirent les pieds sur leurs coups. Un signe de victoire, un signe de domination, un signe de quelqu'un qui a remporté le combat et qui assujettit l'autre. Ce n'est pas le diable qui doit vous assujettir. Et si les armes spirituelles et la parole de Dieu est réellement mise en pratique, vécue, alléluia, utilisée dans le bon sens, sans rien rajouter, sans rien retrancher, attention, je le dis souvent, à toutes les fausses doctrines qui circulent aujourd'hui, elles risquent de vous emporter loin de Dieu. Et le Seigneur veut qu'ainsi nous soyons de ceux qui mettent les pieds sur le cou de l'adversaire. Je dirais même au pluriel sur leur cou, le cou de tous ceux qui voudraient nous arrêter. Cela, ces choses, ces pensées qui viennent de nous-mêmes, notre chair, bien sûr, ça peut vouloir nous arrêter. Je vais mettre le pied sur le cou de ma chair pour que l'Esprit de Dieu prenne toute sa force. Je vais mettre les pieds sur tout ce qui s'oppose à ma vie spirituelle et qui veut m'éloigner de la doctrine biblique, de la vérité biblique qui a franchi et qui rend réellement libre. Les pouvoirs dominateurs, les esprits du mal, Paul en parle, Éphésiens 6, on l'a lu. Les pouvoirs dominateurs, les esprits du mal essaient d'entraver notre marche de croyants. Et pour ce faire, ils vont utiliser, sous la direction organisée de leur chef, l'ennemi, le diable, Satan, diverses formes d'agressions spirituelles telles que, je le répète, tentation, oppression, piège, tactique, le tout par méchanceté pour nuire. Mes frères et sœurs, je rappelle que le terme ruse, c'est marqué, ruse, il est rusé, ruse. Et la traduction, je l'ai dit la dernière fois, d'un autre mot grec, méthodia, qui a donné une méthode. Je ne suis pas là pour faire l'apologie du diable, je suis en train de vous montrer qui est l'adversaire. On ne doit pas ignorer ses desseins, dit la Bible. Et l'adversaire, que vous le vouliez ou pas, malgré tout, il est méthodique. Il n'est pas brouillon, il est organisé, il y a une hiérarchie qu'il contrôle. Par rapport à tous les anges qui ont été déchus avec lui, qui l'ont accompagné, myriades, il y en a beaucoup. Mais ils étaient dans une hiérarchie, car dans le ciel, il n'y a pas que des anges, il y a des archanges, il y a des séraphins, il y a des chérubins. Et ils ont été précipités avec cette puissance qui est devenue une puissance maligne. Il est méthodique dans son travail. Et l'Église, si elle n'est pas méthodique en fonction de ce que Dieu nous laisse, par le Saint-Esprit, par lequel nous sommes conduits avec les armes de Dieu, les armes spirituelles, avec la parole de Dieu, si on n'est pas méthodique dans le cadre du combat spirituel, alors on va perdre. On va s'affaiblir. On va reculer, on va chercher des excuses, on va chercher des prétextes pour ne pas se culpabiliser personnellement. Et là, le diable commence à gagner, commence à verrouiller. Mais moi, je prie pour que là, peut-être, où il a commencé à prendre un peu de place, il puisse petit à petit être à nouveau écarté. Le seul moyen, parfois, c'est la repentance. Même un chrétien peut passer par là. Et la repentance, c'est un changement d'intention et de mentalité. Seigneur, pardonne-moi. Donc le mot méthode veut dire ruse, tromperie, fraude, artifice, guet-apens, tromperie sous tous les points. Je prends une anecdote, vous allez comprendre, j'aime bien prendre comme ça quelques histoires, et quand on rend témoignage, on le fait aussi. Cette anecdote nous parle d'une sécurité invisible. Au début de ce siècle, peut-être vous la connaissez cette histoire, mais certains la connaissent pas, au début de ce siècle avait été organisé dans une capitale européenne, une exposition de bijoux et de joyaux royaux. Et dès l'entrée, le visiteur était tout surpris de ne pas voir les protections, vous savez, les protections habituelles, qu'il s'attendrait à trouver là, c'est-à-dire des grilles, des vitrines avec des alarmes. Non, les somptueux joyaux, j'ai mis à l'envers. Bon, je repars en vacances. Les somptueux joyaux, ben, c'est allé sans obstacle apparent sur les tables découvertes, à portée même de la main, on pouvait presque les toucher. Et là, c'était stupéfiant de voir une absence d'élémentaire précaution, surtout la valeur de ces joyaux. Mais il fallait lire les écriteaux qui étaient disposés tout autour de la table. Ils avertissaient qu'un fort courant électrique parcourait les tables et aurait immédiatement, pas donné une petite décharge, immédiatement foudroyé l'imprudent. Ah oui, quand même. Et il y en avait tout autour, hein, pour le faire exprès, pour toucher. Mais enfin, c'était noté. Celui qui aurait porté la main sur les joyaux exposés, ben, il risquait sa vie. Ils étaient ainsi plus sûrement, je dirais, protégés que par des grilles ou des vitrines. Et cela, pourquoi j'ai raconté cette histoire? Parce que cela nous fait penser à comment dire, à tout ce que nous pouvons noter concernant la protection de Dieu, qui demeure invisible. Si quelqu'un me dit « montrez-moi Dieu », ben je ne peux pas. Par contre, vous pouvez ressentir sa présence dans votre cœur, si vous ouvrez votre cœur, si vous réouvrez votre cœur, parce qu'il est vivant. Une sécurité invisible. Je ne peux pas vous montrer cette protection divine, mais elle est là, elle demeure. Je pourrais vous raconter des anecdotes, des histoires, mais je ne voudrais pas rallonger le message, mais elle est plus puissante et plus efficace que toutes les protections que le monde peut nous offrir. Dans le psaume 20, versets 8 et 9, il est écrit, David dit ceci, « Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux, mais nous, dit-il, nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. » Amen. Eux, alors qu'ils s'appuient sur leurs chars et sur leurs chevaux, eux, ils plient, et même, il est écrit, ils tombent, mais nous, et le mot est là, et je vais y revenir, nous tenons ferme et nous restons debout. Alléluia. Et je souhaite que vous restiez ferme et que vous restiez debout le plus longtemps possible, et je me le souhaite à moi aussi. Mes frères et sœurs, ne cherchons pas l'appui du monde. L'Église ne se remplira pas en fonctionnant selon l'idée du monde. L'Église de Jésus-Christ n'a pas besoin des choses de la terre. Parce que tout ce qu'il fait vient du ciel, il a tout ce qu'il faut, il a tout entre ses mains, il peut utiliser qui il veut, bien sûr, comme il veut, quand il veut. Mais mes frères et sœurs, Dieu, c'est lui qui agit. Ne cherchons pas de la force ailleurs, ne cherchons pas un appui ailleurs, même un appui humain. Parce que si cet appui humain tombe demain ou après-demain, vous tombez avec. Et j'en ai vu tomber. Parce qu'ils considéraient quelqu'un comme étant plus important que Dieu dans leur vie. Celui qui doit être le premier dans votre vie, c'est pas le quelqu'un qui est à côté de vous, c'est Dieu. Ce n'est pas une organisation, c'est Jésus. C'est le Saint-Esprit, c'est sa parole, parce que l'organisation, si elle s'écroule, vous écroulez avec. Hein. Oui. Et mes frères et sœurs, c'est vrai pour une personne, c'est vrai pour une organisation, quelle qu'elle soit. La protection de Dieu. Juste un témoignage, mais pas rallongé, mais il me vient à l'esprit, il s'impose. Donc je le donne. Je vais appuyer sur la cuirasse de la justice, mais ça ne sera pas très long. Tout ceci pour dire que cette protection divine est une réalité. Il y a quelques années de cela, oh, il y en a tellement de témoignages, mais celui-ci s'impose à mon esprit. C'est l'un des prédicateurs du 19e siècle, qui se prénommait Dwight Light Moody, qui, un soir, en plein hiver, alors qu'il venait de terminer de prêcher la parole de Dieu dans l'église où il était pasteur, il est sorti le dernier pour fermer le lieu de culte et rentrer chez lui. L'église se trouvait dans une ruelle très sombre, pas très bien éclairée, et on est en plein hiver, donc il faisait nuit. Il ferme l'église, il part, il rentre chez lui, sans problème. On vient me dire, mais où est la protection divine? Attendez, la suite. Quelques années plus tard, un homme vient le voir, un homme qui venait de faire la paix avec Dieu, de se réconcilier avec Dieu par Jésus-Christ, un homme qui venait d'accepter Jésus comme sauveur et seigneur personnel, qui était un homme nouveau, une nouvelle créature. Il est venu vers Monsieur Moody et lui a dit, je voudrais vous parler, parce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas vraiment saisi, mais qui a profondément eu raison de mon âme et de mon cœur. Il dit, je vous écoute, et il lui dit, voilà. Il lui donne la date. Tel soir, de tel jour, j'étais caché dans la ruelle de l'église. J'attendais que vous sortiez afin de vous tuer, monsieur le pasteur. Et je suis arrivé derrière vous, à quelques mètres, à 3 mètres de vous, avec mon couteau prêt à vous le planter dans le dos. Et au moment où je m'approchais à 3 mètres, à ce moment-là, il y a eu quelque chose que je n'ai pas compris, mais aujourd'hui je comprends. Mais à ce moment-là, je n'ai pas compris, mais surtout j'ai eu peur. C'est que tout à coup, je vous ai vu entouré d'anges. Il a dit, je sais que ce sont des anges aujourd'hui. À l'époque, j'ai cru que c'était quelque chose qui venait de je ne sais où, mais qui avait une puissance extraordinaire. Quand j'ai vu cela, il y avait une puissance, il y avait des êtres qui étaient puissants, il y avait une lumière puissante, il y avait une sensation que je ressentais que j'étais faible, que j'étais rien, que j'étais un vermisseau. Ce jour-là, je suis parti en courant, je suis rentré chez moi, j'ai demandé à Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je savais que vous étiez pasteur. Et j'ai compris que Dieu était en train de vous protéger de ma folie. Et j'ai entendu l'évangile et je me suis converti aujourd'hui. Je voudrais vous dire, voilà ce qui s'est passé. Et le Moody de lui répondre, Moody, serviteur de Dieu, de lui répondre, écoutez, ce que vous me dites ne m'étonne pas, parce que Dieu est ma protection jour et nuit. Partout où je vais, Dieu est avec moi. Je te garderai partout où tu iras. Et je serai avec toi. Je t'entourerai par derrière et par devant et ma bonne main, alléluia, elle sera sur toi. Le Seigneur garde ton départ, garde ton arrivée. Il te garde de tout mal. Quand tu es au Seigneur, quand tu es revêtu de ses armes spirituelles, le diable peut essayer de mille manières. Mais il va échouer. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tenir ferme. C'est-à-dire rester debout. Je reprends les termes bibliques qu'on a lus. Il faut résister. C'est-à-dire avoir la force physique ou morale nécessaire pour affronter l'adversaire dans le mauvais jour. Et après avoir tout surmonté, c'est-à-dire après être venu à bout, d'avoir vaincu, d'avoir dominé au nom de Jésus-Christ avec les armes de Dieu. Il nous faut être bien équipés, mes frères et sœurs. Il ne suffit pas de commencer à marcher avec Dieu, il faut aller jusqu'au bout. Toute la panoplie est décrite, ceinture, cuirasse, chaussures, bouclier, casque, épée. La difficulté consiste maintenant à bien comprendre ce que chacune de ces armes représente. Et la cuirasse de la justice, qu'est-ce que c'est? S'agit-il de quelque chose que le croyant a pu ou peut produire par lui-même? Non. S'agit-il de sa justice, de sa vérité, de son zèle personnel? Non. Quand je considère que Jésus a parlé d'une justice qui doit surpasser, Matthieu 5, qui doit surpasser celle des scribes et des pharisiens, le texte le dit. C'est Jésus qui le dit. Votre justice, elle doit surpasser celle des religieux. Pourquoi Jésus dit cela? Parce que Jésus, il est venu apporter quoi? La grâce et la vérité. Il l'a fait en révélant qui ça? Le Père, dans son amour. Et ce n'est pas en diminuant les exigences de la nature divine que ça s'est manifesté. Il n'a pas aboli la loi ou les prophètes, mais il en a été, je le disais encore vendredi soir, l'accomplissement, le sommet. En grec, c'est le télos. La Bible dit « pas un iota, pas un seul trait de l'être ne passera que tout ne soit accompli. » Pas un iota, pas un seul trait. Quand vous regardez comment s'écrit l'alphabet hébreu, il y a des points, il y a des traits pour apporter la signification à la lettre et à l'expression hébraïque qui va se manifester. Et quand Jésus dit cela, il sait de quoi il parle. Il parle de cette traduction, il parle de cette vérité, de cette parole, un iota, un seul trait, mais en même temps de sa propre parole. Ce que Dieu dit, l'accomplit. Les scribes et les pharisiens, revenons à leur justice. Ils prétendaient s'y conformer à la justice de Dieu, en ne pratiquant que certaines cérémonies, celles qui les arrangeaient quelque part. Et le Seigneur va dire aux disciples, j'y reviens sur le texte, que si leur justice ne dépassait pas celle de ces hommes-là, c'est écrit, noir sur blanc, ils n'entreraient pas dans le royaume de Dieu. Faut pas passer rapidement, hein. Puis balayer ça d'un revers de la main, de dire, oh, on ira tous au paradis. Non, ça, c'est une bêtise qui a été chantée dans les années 70. Par un certain chanteur que vous connaissez pour les plus anciens et qui a tendance à revenir au goût du jour parce que les hommes aiment ça, on ira tous au paradis, je peux violer, je peux tuer, je peux mentir, je peux voler, je peux faire n'importe quoi, j'irai au paradis, mais faut arrêter, Dieu est un Dieu de sainteté. La Bible dit que si tu crois dans le Seigneur Jésus comme Sauveur, Seigneur, comme étant le Fils de Dieu, si tu mets ta foi en lui, alors il t'ouvrira le ciel. Sinon, pourquoi je continue à marcher avec Dieu alors ? Je peux retourner dans ma vie d'avant, une vie dans la mafia, dans les ténèbres, dans des orgies, dans l'alcoolisme, dans la violence, et j'en passe. Non. Depuis que Jésus a changé ma vie, tout a changé. La paix, la joie, l'amour, l'espérance, etc. ne me quitte pas. Amen. Par contre, les choses du passé, ça fait 33 ans qu'elles sont passées à la poubelle. Avec le vieil homme. Boum, allez. Que Dieu fasse en sorte que le vieil homme ne revienne pas dans votre vie. Voyez-vous, les scribes et les pharisiens prétendaient s'y conformer. Mais il ne s'agit pas seulement d'accomplir certains actes. Il s'agit de l'état du cœur devant Dieu. Parce que Dieu ne regarde pas aux apparences, mais il regarde au cœur. C'est là que tout va naître. Les mauvais propos, les bons propos. Les mauvaises pensées ou les bonnes pensées. La bénédiction ou la malédiction. Bien qu'il ne faut pas maudire, il faut bénir. Bénir, ça veut dire du bien. Vous disiez du bien ? Faites attention à ce que vous dites aussi autour de votre table. Et puis maudire, ça veut dire du... Ben oui, du mal. Et la chair aime dire du mal, hein. T'as vu comme elle est habillée, le pasteur ? T'as vu, il m'a encore attaqué ? T'as vu un tel ? T'as vu ? Non. Oui, je peux dire t'as vu, mais en disant t'as vu le Seigneur ? Comment il a agi ce matin ? T'as vu comment il m'a fait du bien ? T'as vu comment il m'a interpellé ? M'a peut-être repris, oui, mais par amour, pour que je grandisse encore avec lui. Hein ? C'est mieux ça. T'as vu ? Mon frère et ma sœur, comment il a béni le Seigneur, loué le Seigneur, même si c'est pas haute voix, j'ai entendu, j'étais à côté, je me suis réjoui. T'as vu ? T'as vu mon église, elle va de l'avant ? T'as vu ? La bénédiction de Dieu ? Alléluia ! T'as vu ? La loi disait, tu ne tueras point. Mais si quelqu'un se mettait en colère légèrement contre son frère, il était passible, je reprends le texte, hein, Matthieu 5, on est toujours dans le même texte, par rapport à la justice, il était passible du jugement comme celui qui avait tué. Ah, voyez, c'est pas parce que quelqu'un le fait que vous devez le faire. Je continue. Jean, 1 Jean 3,15, qu'est-ce que dit Jean ? Quiconque hait son frère est un meurtrier. Hait, haïr. Matthieu 5, 22, celui qui disait à son frère fou, insensé, ou raca, ça veut dire vaurien, vendorien, etc., une insulte, était passible du jugement du Sanhédrin de l'époque, ou de la gêne du feu. Et ces paroles de Jésus, mes frères et sœurs, elles ne sont pas à prendre à la légère, elles sont solennelles, hein, elles sont pour nous encore aujourd'hui. Aucun iota, aucune lettre ne passera. Hein. Et la justice, être dans cette cuirasse de la justice, c'est celle du Seigneur, c'est pas la nôtre, c'est pas celle des hommes, c'est pas celle d'en bas, c'est celle d'en haut. Et ces paroles de Jésus sont solennelles, ils nous font voir ce qui est mal aux yeux de Dieu. Et combien on se sent repris, parfois les entendant, parce que ça monte vite dans le cœur des hommes aujourd'hui, de notre génération, des pensées haineuses un peu et peu bienveillantes à l'égard des autres, des uns et des autres. Il nous laisse entrevoir qu'il ne peut s'agir que de la sienne de justice, dont le croyant a été normalement revêtu par la foi. Les armes de Dieu par excellence désignent ce qu'il est et ce qu'il nous a acquis. Être revêtu de la cuirasse de la justice est à opposer à la culpabilité, est à opposer à la condamnation. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Quand le Saint-Esprit nous convainc de justice, entre autres, il nous persuade de celle de Christ. Car nul ne pouvait ou nous pouvons dire que Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Et la justice est l'aptitude à toujours faire ce qui est bien, à faire ce qui est parfait, à faire ce qui est équitable, à faire ce qui est droit, à faire ce qui est vrai, à faire selon la parole de Dieu. Nous pouvons définir cette justice en définitive comme étant l'absence de péché dans notre chemin, dans nos voies. Et ainsi nous trouvons au psaume 23 cette réalité qui dit « Il restaure mon âme, il me conduit dans le sentier de justice ». À cause de quoi ? À cause de son nom. Et ces sentiers, mes frères et sœurs, le péché ne doit pas y entrer. Parce qu'ils ont été tracés pour la brebis par Jésus, le bon berger, qui a marché, qui marche encore devant elle. Je prends un exemple très rapidement et je vais clôturer. C'est le psaume premier, juste très rapidement, parce que c'est tout un message. Hein. Le psaume premier, ça sera ma conclusion, versets 1 et 2. On peut le lire ? Voilà, c'est devant vous. Qu'est-ce qu'il est écrit ? Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, vas-y, tourne la page, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, la parole de Dieu, et qui la médite jour et nuit. Alors très rapidement, je dis ceci par rapport à la justice de Dieu, et ici, il y a une réalité d'injustice qui vient de l'homme, ou du le sang, soi-disant justice humaine. Mais ce n'est pas le cas. Les méchants, c'est qui ? Ce sont ceux qui non seulement pratiquent la méchanceté au sens commun du terme, mais ceux qui surtout s'opposent à Dieu et à sa parole. Et les deux choses sont liées parce que ceux qui prennent leur plaisir à être méchants ne peuvent pas se recommander de Dieu d'une manière authentique. Les pécheurs, ce sont ceux qui transgressent la parole de Dieu. Et les moqueurs, ce sont ceux qui tournent la loi de Dieu, la parole de Dieu en dérision. Et la fréquentation de ces personnes, nous dit David, ne peut que provoquer la contamination d'un état d'esprit. D'ailleurs, même l'amertume, elle produit des rejetons, elle peut en infecter plusieurs. Il y en a quelques-uns parfois qui sont dans l'amertume, ils infectent. Il faut qu'ils se ressaisissent. Trois attitudes à refuser. Celui qui ne tient pas compte de ce qui précède commence par ce qu'on a vu, la justice de Dieu revêtue de cette cuirasse. Si on ne tient pas compte de cela, de cette deuxième arme spirituelle, donc, on commence par marcher avec ceux que l'on devrait éviter, on s'arrête sur le chemin avec ces gens-là et on finit par s'asseoir avec eux. La Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et vivre dans la compagnie de ceux qui ne disent et ne méditent que le mal, bien ça ne peut que perturber. Et pourtant, Abraham a prié et il a dit, « Seigneur, s'il y avait 50 justes, s'il y avait tatati, et il insiste, et il insiste. Pourquoi ? Parce qu'Abraham demandait à Dieu le salut de Sodome au travers de la valeur de quelques justes qui ont été introuvables. Lot est sorti de justesse. Sa femme ne l'a pas vraiment suivi puisqu'elle s'est arrêtée en milieu de chemin, elle n'a pas écouté Dieu. Et encore, même Lot a dit, Seigneur, si je peux la tsoar, cette petite ville-là, c'est tout petit, ça me suffira. Mais Dieu avait quelque chose de plus grand pour lui. On cherche toujours à discuter. Mes frères et sœurs, il faudra arriver à la venue de Christ pour que cette attente d'Abraham soit satisfaite. Il est le juste, Jésus. Étant en lui, sa justice sur nous devient une cuirasse sans défaut, contre laquelle se brisent toutes les accusations de Satan. Qui accusera les élus de Dieu ? Romains 8, 33, puisque c'est Dieu qui justifie. Ésaïe 59, 17, il voit qu'il n'y a pas un homme, il s'étonne que personne n'intercède, alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert. D'appui, il se revêt de la justice comme d'une cuirasse. Hébreux 11, 7, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille, et c'est par elle qu'il condamna le monde et devient héritier de quoi ? De la justice qui s'obtient par la foi. Alléluia. Protégeons notre cœur. Je l'ai dit. La cuirasse, ça protège le cœur spirituel, qui est le siège des sentiments. ça protège nos poumons, qui est la prière et la respiration de l'âme, qui entretient la vie. Protégeons notre ventre par la cuirasse de la justice pour que nous ayons continuellement des entrailles de miséricorde. La justice de Christ englobe et sanctifie tous ces aspects de notre vie spirituelle. Amen. La prochaine fois, nous parlerons des chaussures. Alléluia. Prions le Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur Jésus. Nous savons en quel temps nous sommes. Seigneur, nous avons besoin de ne pas perdre de vue ce temps qui est le nôtre. Et pour ce faire, nous ne voulons pas perdre de vue ce que tu nous demandes de vivre et que tu nous donnes la capacité de vivre par ton esprit qui est en nous. Je prie pour que dans cette église de Grouillet, Seigneur, tous ceux qui croient en toi, tous ceux qui croiront en toi, puissent être revêtus de toutes ces armes. Nous avons parlé de la ceinture de la vérité. Ta vérité, Jésus, tu es la vérité, le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par toi. Nous avons parlé de la cuirasse de la justice en rappelant les points forts du combat spirituel. Seigneur, nous voulons protéger notre cœur, nous voulons protéger notre être tout entier, chaque point fort, afin d'être de ceux qui resteront debout. Alléluia. Qui, Seigneur, continueront à avancer, qui resteront fermes, qui résisteront, qui pourront surmonter le mauvais jour. Seigneur, certains sont peut-être un peu dans le déséquilibre spirituel, aide-les, qui se ressaisissent. C'est encore temps, c'est aujourd'hui le jour du salut, c'est maintenant le temps favorable, et qu'ils puissent se revêtir déjà de ces deux premières armes, même des autres bien sûr, par le Seigneur encore, tout au long de cette journée, tout au long de cette semaine. À Dieu soit la gloire. Amen.